10 minutes, chronique. Pourquoi nous sommes venus en ville? Nous sommes venus en ville parce que nous voulions une vie désordonnée, voir ce que nos échecs avaient à nous apprendre et ne satisfaire que nos désirs les moins raisonnables et non pas revenir à la vie en se rendant compte que nous n'avions jamais été morts. Nous voulions explorer les possibles, sucer la moelle de la vie, crouler sous le travail jusqu'à notre dernier souffle. Si nos patrons se montraient mesquins, nous porterions un toast à leur méchanceté pure et entière, à grand renfort de vodka cranberry et de verre de bourbon. Et si nos compagnons de beuverie se révélaient sublimes, nous rentrerions à l'aube, en titubant, sur les rues pavées de la vieille ville. Une douche chaude, une chemise propre, et on survivrait jusqu'aux lumières du soir. Vous venez d'entendre le prologue d'un roman paru en 2016 de Christopher Jansma, dont le titre en anglais est « Why we came to the city ?»« Pourquoi nous sommes venus en ville ?» traduit en français par « New York Odyssey ». La première partie du roman commence en 2008 pendant la fête du Nouvel An, où tout ce qui compte pour un groupe de jeunes gens de 20 ans, c'est de passer des nuits dans un bar, à imaginer leur avenir, s'amuser et avoir gagné assez d'argent pour payer la note à la fin de soirée. Ils sont pleins d'espoir. Ils sont prêts à en découdre pour gagner leur place dans la ville. 5 amis qui ont emménagé à New York après l'université où ils se sont connus et qui ne se quittent plus depuis. Ce pourraient être des personnages de Friends, cette sitcom qui a eu un succès mondial du milieu des années 90 au début des années 2000, où 6 amis qui vivaient dans 2 appartements voisins à Manhattan partageaient tout de leurs expériences, connaissaient des difficultés sentimentales, avaient parfois du mal à trouver leur voie professionnelle, mais réussissaient finalement à s'en sortir grâce à leur amitié, leur solidarité et l'humour qui enveloppait le tout. Chez les personnages de New York Odyssey, l'énergie folle qui les inspire à leur arrivée dans la ville retombe petit à petit. Cette désillusion était en germe dès le début, au cœur de leur fougue et d'un espoir trop intense. Christopher Jansma creuse un fil symbolique au milieu de cette force juvénile en y installant la mort prochaine d'un des personnages qui découvre bientôt la maladie qui va l'emporter. Malgré cela, ce n'est pas cette idée de la mort, même déchirante, présente dorénavant dans le quotidien des personnages, qui va provoquer leur désamour de la ville. Mais la révélation des difficultés inévitables et insurmontables dans une métropole où tout semblait brillant, où ils pensaient être accueillis. Leur amitié, cette forme d'amour réciproque, ne suffit pas à les réconforter. Ce sont les espoirs de chacun qui s'effritent. J'ai déjà parlé ici d'un genre à part de la littérature américaine, ce qu'on pourrait appeler le roman new-yorkais. Et plus particulièrement les récits mettant en scène de jeunes gens pour lesquels l'amitié est leur soutien et leur rêve d'ambition, leur définition. Ils se sont installés à New York avec des désirs de conquête, ils sont ambitieux et fauchés, et bien décidés à profiter de ce que la ville leur offre, le travail et la fête. Devenir riches et rester ensemble. Ils se sentent immortels. Cela sans encore avoir pu comprendre que le temps, la vie, fait dévier les aspirations, les projets, et parfois aussi sépare les êtres. Ces romans ont un côté doux-amer, où la déception s'inscrit progressivement. On peut leur reprocher une certaine légèreté, d'être tourné essentiellement sur la conscience de soi et de fonctionner principalement sur l'émotion. Chacun en jugera. On peut aussi y déceler quelque chose d'universel, dans le désir légitime et finalement rassurant, d'une jeunesse idéaliste prête à conquérir le monde. Même si la dure réalité viendra se manifester. Roman intemporel, mais aussi témoin d'une génération. Voici ce que Christopher Jansma a déclaré dans un entretien en 2016. Avant la crise financière, je pense qu'il y avait cette croyance, peut-être naïve, que tout le monde allait payer son dû, travailler très dur, être promu. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que les personnes qui n'ont pas perdu leur emploi étaient là, mais elle ne pouvait aller nulle part. Elle n'allait pas obtenir de promotion. Personne n'allait changer de poste et leur patron ne prenait pas leur retraite, ne partait pas et ne faisait pas de place à quelqu'un d'autre. Et cela a totalement changé la dynamique. Donc, je voulais vraiment saisir ce qui se passait ici et à ce moment-là, parmi les jeunes de 20 ans. Ces propos de leur auteur se retrouvent dans le prologue du roman en ces termes. Nous vivions avec frénésie comme des oiseaux-mouches, même si les ressources humaines prétendaient que notre engagement était précieux et nos retours appréciés. Cette année encore, il n'y aurait pas d'augmentation. Comme des moustiques, nous harcelions nos patrons, que nous ne connaissions même pas, qui étaient incapables de se servir d'Internet, pour qui nous n'étions bons qu'à ouvrir des comptes Facebook pour espionner leurs enfants, synchroniser leur iPhone avec Outlook ou expliquer la nature d'un tweet et surtout son utilité. On voulait crier « à la retraite !»« Dégagez le passage, vous et vos gros pouces maladroits !» Vos trous de mémoire et votre nostalgie de l'année 76, nous les détestions. Nous voulions qu'ils nous aiment. Nous voulions être eux, sans jamais, jamais être comme eux. On se jurait de tomber amoureux, un amour à en agripper les têtes de lit, à s'envoyer des textos désespérés, à sentir nos tripes se nouer. Dans le métro et au parc, sur les escaliers de secours et à la cafétéria, on tournait des pages, résolus à lire chaque livre jusqu'à la dernière ligne. Notre monnaie la plus précieuse se comptait en minutes. Si seulement nous pouvions fabriquer plus de temps, plus d'argent, plus de patience aussi, boire du vrai café, avoir des chaussures qui ne prenaient pas l'eau et des parapluies qui ne se retournaient pas à la première bourrasque, nous étions résolus à faire des paris stupides. Nous étions résolus à être promus et à foutre le feu à l'immeuble en partant. Nous étions résolus à perdre la raison. Ce qui se profile dans la première partie, malgré l'énergie et l'optimisme des personnages, c'est une prise de conscience qui va mener le roman vers un deuxième volet. Bientôt, nous nous sommes mis à détester ces contractions perpétuelles de la vie. Vivre dans les cartons sans jamais avoir la place de les déballer, on baptisait les pigeons à nos fenêtres, on s'inquiétait de leur maigreur soudaine. On entendait beugler dans les appartements du dessous et grincer les lits dans ceux du dessus. Partout, on voyait des gens avec des chiens et on se demandait mais comment ils faisaient ? Travaillaient-ils chez eux ? Travaillaient-ils tout court ? Avaient-ils fait de bonnes écoles ? Étaient-ils pistonnés ? On ne connaissait personne. Nos parents étaient nos garants de papier. Ils nous appelaient de leur bureau dans des zones industrielles de banlieues lointaines et incolores et nous disaient, cauchemar, qu'on pouvait toujours rentrer à la maison. La seconde partie commence quand l'éclat se dissipe, que la lassitude survient, quand le loyer grimpe et que les murs se rapprochent dans de plus petits logements, quand on commence à imaginer un autre avenir et où la flamboyance ne fait plus partie des réalités possibles. Pourquoi nous avons quitté la ville ? Nous quittâmes la ville pour de bonnes raisons. Du moins, elle nous semblait bonne à l'époque. Nous avions plusieurs vies à vivre, et plus de temps à gâcher sur le quai de la ligne G. Nous en avions assez de payer toujours plus cher pour les mêmes mètres carrés habitables, de courir une énième fois après le propriétaire pour qu'il fasse réparer le frigidaire. Nous n'allions pas déménager dans un 12e appartement. Alors nous partîmes par les ponts et les tunnels, priant ferme pour récupérer nos cautions. Adieu, joueurs de hautbois de l'appartement voisin. Adieu, vieux couple d'en face sans rideaux ni vêtements. Partout ailleurs, il serait facile d'être propriétaire, de s'acheter une voiture. Partout ailleurs, nous pourrions être quelqu'un d'autre, ou peut-être que le meilleur de nous-mêmes, perdu depuis longtemps, se trouvait au bout du trajet. Nous nous relevions la nuit, nous demandant quel genre de personne serions-nous, sans l'angoisse et la crainte. It's quiet now, and what it brings. Everything comes calling back, a brilliant night, I'm still awake. I looked ahead, I'm sure I saw you there. You don't need me to tell you that nothing can compare. You might have laughed if I told you. Thank you.
tried to take.
Dans ma lecture subjective de ce roman, j'ai regretté la traduction du titre en français. L'auteur n'avait pas par hasard intitulé son histoire « Why we came to the city »,« Pourquoi nous sommes venus en ville ». La ville, la métropole ici, New York, représente à la fois tous les espoirs et toutes les déceptions, et à la fin, il faut la quitter, pour prendre un autre essor, ailleurs. Il a fallu se résoudre à abandonner ses illusions. New York Odyssey serait-il un roman d'apprentissage ? New York Odyssey est paru en France en 2017, aux éditions Rue Fromentin et en livre de poche, traduit de l'américain par Sophie Troff. À bientôt sur Westrack Radio et dans Viva Culture.
New York, I love you, but you're bringing me down. New York, I love you, but you're bringing me down. Like a rat in a cage, pulling minimum wage. New York, I love you, but you're bringing me down. You're safer and you're wasting my time. Our records all show you were filthy but fine. But they shuttered your stores when you opened the door.